de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer entre autres. Dynamique de 50 ans, le Japon intensifie sa coopération culturelle avec l'ASEAN. Exercice de Basarnas Natuna avec MRSC Malaisie. Qatar s'intéresse au potentiel du café de Sulawesi du Sud. Ambassade d'Indonésie à Nairobi fait la promotion du pentaxilat indonésien auprès des étudiants kenyans. Kadin et Australie occidentale explorent les opportunités de développement de l'industrie des batteries, EV. Ministère de l'Environnement et des Forêts a déclaré que la gestion des déchets s'améliorait en Indonésie. Et Qatar et la Libye sont de nouvelles destinations pour les exportations de produits agricoles du sud de Sulawesi. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le Japon cherche à renforcer les échanges culturels avec les membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, dans l'élan du 50e anniversaire de l'amitié et de la coopération Japon-ASEAN. Le directeur exécutif du département de planification de la Fondation japonaise, Furuya Masato, l'a déclaré lors d'une conférence de presse en ligne à Jakarta mardi. Ainsi, Furuya espère que les artistes et les jeunes japonais pourront créer quelque chose de nouveau à partir des différentes culturelles d'Asie du Sud-Est. Cette année, il a dit qu'il existe plusieurs programmes visant à renforcer la coopération dans les arts et la culture avec les pays de l'ASEAN, notamment les beaux-arts, les arts du spectacle et le cinéma. Pour les beaux-arts, l'an 2 est une exposition itinérante qui présente une variété d'œuvres japonaises traditionnelles, allant de l'art et de la céramique, de l'artisanat et des poupées japonaises. Une exposition d'art et de beauté de poupées japonaises intitulée Ningyo est également prévue en Indonésie cette année. À côté de cela, il y a aussi l'art contemporain comme la photographie, l'architecture et le design. Bureau de recherche et de sauvetage Basarnas Natuna de l'archipel de Riau organise une formation en communication SAR entre deux pays, à savoir l'Indonésie et la Malaisie, MRSC Kuantan. chef du bureau de recherche et de sauvetage Natuna Abdulrahman à Natuna mardi 21 février. Les communications SAR de l'exercice, également connues sous le nom de SAR-COMEX, sont un programme d'exercice de routine tous les mois entre la Malaisie et l'Indonésie. A déclaré que le but de l'exercice SAR-COMEX était d'améliorer les capacités de coordination et de communication entre les équipes de sauvetage interétatique via le bureau SAR le plus proche. Le chef du centre de quarantaine agricole de Makassar, BBKP, Lutfi Nasir, a déclaré que le Qatar était intéressé par le potentiel du café du sud de Sulawesi qui a un goût délicieux et d'autres avantages. Dans sa déclaration à Makassar mardi, Lutfi a déclaré que le Qatar était prêt à fournir une assistance aux producteurs de café de Sulawesi du Sud afin que leur qualité de café soit supérieure et adaptée à l'exportation vers le pays à l'avenir. En ce qui concerne les zones qui se concentreront sur le développement de la culture du café, il admet qu'ils sont encore en train d'explorer les districts ou les régions de Bantaing ou Gua. Auparavant, BBKP Makassar, le ministère de l'Agriculture, avait débloqué 32 tonnes d'exportation des clous de girofle produites par les agriculteurs du sud du Sulawesi vers le marché du Moyen-Orient. 11 février 2023. L'ambassade d'Indonésie à Nairobi fait la promotion du Pencaksilat en tant qu'art martial indonésien auprès des élèves des écoles internationales kényanes. L'ambassadeur indonésien au Kenya, Mohamed Heri Sarifuddin, dans sa déclaration de mardi, a déclaré que l'ambassade indonésienne, au cours des deux dernières années, a activement intensifié ses activités pour promouvoir la culture indonésienne au Kenya. Les activités comprenaient l'introduction et la formation du Pencaksilat en tant qu'art martial à la jeunesse kényane. L'ambassade d'Indonésie à Nairobi a de nouveau organisé la semaine dernière une promotion de Pencaksilat lors de la journée internationale à International School of Kenya, ISK, de Nairobi. Entre 400 et 500 élèves et leurs parents ont assisté au spectacle de Pencaksilat. L'ambassade d'Indonésie a déclaré que 8 jeunes interprètes de Pencaksilat à Nairobi ont émerveillé le public avec de magnifiques mouvements d'arts martiaux. La Chambre de commerce de l'industrie indonésienne Kadin et le gouvernement de l'Australie occidentale ont convenu de mener une évaluation pour développer l'industrie de batteries de véhicules électriques VE en Indonésie. L'accord était contenu dans un protocole d'accord MOU pour explorer les opportunités de partenariat dans les minéraux critique pour l'industrie des batteries et des véhicules électriques, qui a été conclue à Perth, en Australie, le 21 février 2023. Président de la Chambre indonésienne de commerce et industrie, Arshad Rashid, dans un communiqué à Jakarta mardi, espère que la synergie entre les deux pays dans le développement de l'industrie des batteries augmentera la compétitivité de l'Indonésie sur le marché mondial et créera de nouveaux emplois pour le peuple indonésien. Le ministère de l'Environnement et de Forêt de la République d'Indonésie a déclaré que les gens sont de plus en plus préoccupés par les problèmes de déchets, ce qui améliore les activités de gestion des déchets en Indonésie. La directrice générale de la gestion des ordures des déchets et des B3 au ministère de l'Environnement et des Forêts, Rosa Vivienne Ratnawati, a déclaré qu'il existe actuellement de plus en plus de pratiques de gestion des déchets impulsées par les acteurs communautaires et industriels dans diverses régions, Interrogé en marge de la commémoration de la Journée nationale de protection des déchets, HPSN 2023, au bâtiment de Mangala Wanabakti, Jakarta, a expliqué mardi qu'au HPSN 2023, le ministère indonésien de l'Environnement et de Forêt organisait un programme Country Clean Tour. Cette activité a reçu le soutien de milliers de cyclistes qui ont pédalé sur les routes nord et sud de l'île de Java sur environ 1100 km avec un point de départ à Bali et se terminant à Jakarta. Le chef du centre de quarantaine agricole de Makassar, BBKP, Lutfi Nasir, a déclaré que le Qatar et la Libye étaient les nouveaux pays de destination des exportations des produits agricoles du sud de Sulawesi. Lutfi Nasir, dans sa déclaration à Makassar mardi, a expliqué que les deux pays ont simultanément étendu la liste des destinations d'exportation des produits agricoles du sud de Sulawesi après les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Malaisie, les Philippines, la Chine, qui ont jusqu'à présent régulièrement importé des produits agricoles de Sulawesi du Sud. Selon lui, les pays arabes ou de Moyen-Orient aiment les épices appartenant au sud de Sulawesi à cause de l'arôme des clous de girofle. C'est très différent de la Malaisie, qui l'aime en fait à cause du goût. Ainsi, il a dit, c'est une excellente occasion pour les agriculteurs du sud de Sulawesi de se concentrer davantage sur l'augmentation de leur production. Cela implique de prêter plus d'attention pour que la qualité soit garantie et en même temps adaptée à l'exportation. Il continue également d'encourager les exportateurs à élargir davantage leur marché, y compris les transactions entre entreprises et le nombre d'objectifs d'exportation prouvant être atteints par les exportateurs de Sulawesi du Sud. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh,
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission des commentaires. Intitulée « Revitalisation de l'enseignement et de la formation professionnelle pour des ressources humaines prêtes à concourir ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chercheurs sans maîtriser de nouvelles compétences, la main-d'œuvre indonésienne sera sûrement laissée pour compte. De nouvelles opportunités d'emploi seront occupées par des travailleurs d'autres pays ou remplacées par des machines et des robots. Le président Joko Widodo l'a rappelé en donnant des directives en ligne lors du lancement du règlement présidentiel numéro 68 de 2022 concernant la revitalisation de l'enseignement et de la formation professionnelle à Jakarta mardi. Le président Joko Widodo a également rappelé que les ressources humaines de l'Indonésie doivent maximiser les opportunités qui se présentent au milieu de la présence d'un bonus démographique. L'Indonésie devrait connaître le pic du bonus démographie en 2030. À ce moment-là, le nombre d'âges productifs sera plus élevé, atteignant 64% de la population totale, qui devrait atteindre 297 millions. Le chef de l'État a souligné que les bonus démographiques doit être utilisé pour faire de l'Indonésie un pays développé. Depuis 2019, le gouvernement de Joko Widodo s'est concentré sur l'amélioration des ressources humaines. L'un d'eux passe par l'enseignement et la formation professionnelle, qui sont certainement orientés vers des ressources humaines professionnelles compétentes. Pour répondre aux besoins du marché et être capable de faire de l'entrepreneuriat, ce mandat est énoncé dans le règlement présidentiel numéro 68 de 2022 concernant la revitalisation de l'enseignement et de la formation professionnelle. Sur la base de ce règlement, l'enseignement et la formation sont dépensés dans des établissements d'enseignement tels que des écoles professionnelles, des écoles polytechniques, des collèges d'enseignement professionnel, des instituts de cours et de formation et des centres de formation professionnelle. La revitalisation de l'enseignement professionnel et de la formation professionnelle est réalisée grâce à des efforts d'amélioration globaux, continus, intégrés et coordonnés. La réglementation est lancée. La prochaine étape est de mettre en place des actions concrètes. Le succès de l'enseignement et de la formation professionnelle ne doit pas seulement être assuré par le gouvernement central. Les gouvernements régionaux, les établissements d'enseignement et de formation ont également une grande tâche pour créer des ressources humaines indonésiennes supérieures. Ne manquez pas le monde des affaires et de l'industrie qui a également un grand rôle. Ce qui n'est pas moins important est bien sûr la préparation du cursus. Les enseignants et les formateurs qui ont une longueur d'avance ont une orientation pour répondre aux qualifications requises des ressources humaines. Les diplômés de l'enseignement et de la formation professionnelle doivent être en mesure de satisfaire aux normes de compétences nationales, régionales et internationales afin d'être prêts à courir. Avec l'implication de toutes les parties, l'objectif de revitalisation de l'enseignement et de la formation professionnelle pour accélérer la préparation des ressources humaines supérieures vers l'Indonésie dorée de 2045 sera atteint. Bon, cher Jouetard, c'est tout. Le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 22 février 1978. La mosquée Istiqlal est inaugurée. Istiqlal a été créée dans le cadre du projet de construction de phare du premier président d'Indonésie, Soekarno, avec la pose de la première pierre le 24 août 1961. La mosquée qui se trouve au cœur de Jakarta a été inaugurée par le président Suharto le 22 février 1978. Istiqlal jusqu'à présent est toujours répertoriée comme plus grande mosquée d'Asie du Sud-Est. Cette mosquée peut accueillir jusqu'à 200 000 fidèles pour y effectuer des prières. La mosquée Istiqlal est aussi l'incarnation de divers symboles. Le nom Istiqlal vient du mot arabe qui signifie « liberté ». Passons maintenant à l'événement du 22 février 1986, Révolution Edsa. La Révolution Edsa ou la Révolution du pouvoir populaire était une manifestation non violente aux Philippines qui a eu lieu du 22 au 26 février 1986. La manifestation pacifique de 4 jours par des millions de Philippins dans la région métropolitaine de Manille a mis fin au régime autoritaire du président Ferdinand Marcos et à la nomination de Corazon Aquino à la présidence. Edsa signifie Epifanio de los Santos Avenue, une rue de la région métropolitaine de Manille qui est un site de démonstration. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 22 février 1997. Une brebis de Dolly, le premier mammifère cloné, est annoncée. Le 22 février 1997, une équipe de scientifiques britanniques dirigée par Ian Wilmoo à l'Institut Crossland près d'Edimbourg en Écosse a annoncé l'existence d'une brebis qu'ils ont nommée Dolly. Dolly est spéciale car elle est le premier mammifère à être complètement cloné. La recherche sur le clonage est une collaboration entre le Roslin Institute, qui fait partie de l'Université d'Edimbourg, et la Société de biotechnologie PPL Therapeutics. C'est Zorital, c'était l'histoire de Zorli pour ce soir.
Indahnya awal kita bertatap mata, ku menyapamu di seberang sana. Gundah gelisah seakan terlupa, tawa candamu mengalihkan semua. Getaran ini terasa nyata. Apakah kau juga merasa kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Tingkahku yang terkadang kau tangisi, jangan kau pendam di dalam hati. Maaf semua takkan ku ulang lagi. Indah rasanya senyummu kembali. Getaran ini terasa nyata. Oh, apakah kau juga merasa dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Yeah. awal kita bertatap mata, percayalah diriku akan setia.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie ayant pour le titre « Le retard de croissance et la réduction de pauvreté sont l'objectif du gouvernement pour la dernière année ». La ministre des Finances, Sri Mulyani, a déclaré que le programme de réduction du retard de croissance et de l'extrême pauvreté était au centre du programme à court terme qui est mis en œuvre au cours de la dernière année de l'administration Joko Widodo Ma'ruf Amin. Elle a dit cela lors d'une déclaration à la presse au complexe du palais présidentiel de Jakarta lundi 20 février. La ministre des Finances a expliqué que le président s'est engagé à réduire le taux d'extrême pauvreté pour atteindre l'objectif de 0% en 2024. Les données pour 2022 montrent que l'extrême pauvreté en Indonésie est toujours à 2% et 14 provinces sont au-dessous du taux national. Par conséquent, le gouvernement accorde la priorité aux besoins de fonds pour réduire l'extrême pauvreté cette année et l'année prochaine. En outre, le gouvernement a également augmenté l'allocation budgétaire pour réduire les cas de retard de croissance à 3% en 2024. Sri Mulyani a ajouté que la pauvreté globale est de 6,5 à 7,5%, tandis que pour le retard de croissance, il devrait diminuer à 3,8%. Selon la ministre des Finances, Sri Mulyani, les priorités de ces deux programmes ont certainement des implications sur le budget qui doit être prévu cette année et l'année prochaine. Par conséquent, le gouvernement stimule également les investissements afin qu'ils puissent augmenter de manière significative grâce aux modifications réglementaires qui ont été apportées. Ces réglementations comprennent la mise en œuvre de la loi sur la création d'emplois, la loi sur le développement et le renforcement du secteur financier, P2SK, la loi sur l'harmonisation des réglementations fiscales et la loi sur les relations financières centrales et régionales. Le gouvernement utilisera également des incitations fiscales sous la forme de vacances fiscales et de support réduction fiscale pour la recherche et le développement et les vocations. Des facilités fiscales, abattements fiscaux sont également prévus afin de soutenir la transformation industrielle, notamment celle basée sur les ressources naturelles, visant à renforcer la filière automobile électrique et à batterie. Sri Mulyani a expliqué que pour l'année prochaine, la dynamique économique de l'Indonésie, qui est actuellement assez forte, continuera d'être maintenue. La croissance économique d'Indonésie est bonne en 2022, à savoir une croissance économique de 5,3%. La dynamique peut encore être maintenue pour 2023 et 2024. Chers auditeurs, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
selama hidup. Carilah kawan bahagia di dalam diri.
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, Bromo, Tengger, Semeru est une destination touristique prioritaire qui offre beaucoup de choses, car les villages tampons qui sont les entrées touristiques de Bromo sont également très intéressants à visiter, tels que les villages de Poncokusumo, Ringin Anom et Zeru qui se trouvent sur la route de Tour Angzip vers Bromo afin que les touristes puissent s'arrêter en chemin. Le village de Poncokusumo est aussi appelé Tanah Wangi car tout ce qui est planté prospérera et donnera des résultats satisfaisants. C'est comme une rangée d'orangeries dont les arbres sont remplis de fruits qui attendent d'être cueillis. Ce n'est qu'en payant 20 000 rupiah que les visiteurs peuvent cueillir et manger autant d'oranges qu'ils le souhaitent dans le jardin. Si vous souhaitez l'emporter chez vous, vous serez facturé 15 000 rupiah par kilo d'oranges. Outre l'agrotourisme orange, les touristes qui viennent au village de Poncokusumo peuvent également profiter de la beauté de l'Edok Kombo en camping au milieu d'une belle pinette. Vous n'êtes pas obligé de passer la nuit, vous pouvez simplement vous arrêter pour déjeuner ou boire un café, tout en profitant de l'atmosphère naturelle des cabanes dans les arbres. En outre, vous pouvez également profiter de la beauté naturelle du village de Poncokusumo. Il y a aussi une excursion en tube de rivière naturelle dans le village de Ringin Anom. Ce circuit nature est né de la préoccupation de jeunes amoureux de la nature qui souhaitent profiter du potentiel touristique de leur village pour qu'il ne soit pas seulement un lieu de repos pour les participants au circuit Angzip. Le tube de rivière le plus encaissant du village de Fringuen-Anom est le trajet jusqu'au point de départ. Le beau paysage des deux côtés, y compris les chemins verdoyants de Cresson, rend la randonnée moins fatigante. Chers auditeurs, vous n'avez pas à vous soucier de personnel de sécurité car ils vous indiqueront les directions et ils iront également directement accompagner les visiteurs pendant la descente en bouée. Étant satisfait de jouer dans la rivière, vous pouvez passer la nuit dans une famille d'accueil appartenant à des résidents pour continuer le voyage en jeep vers Bromo le lendemain. Si vous souhaitez un itinéraire différent, informez en simplement le voyagiste en jeep du village de Fringuen-Anom. En ce qui concerne la flexibilité d'organisation des agendas de voyage, les acteurs de tourisme sont toujours prêts à aider. Alors, qu'attendez-vous? Planifiez vos prochaines vacances pour explorer le village de Poncokusumo et de Fringuen-Anom. C'est Zurital, c'était le magazine Kutuwa pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Pukul berapa? Pukul berapa? En français, à quelle heure? Bonne écoute. Chers auditeurs, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien. Pukul berapa? Pukul berapa? À quelle heure? Cette conversation a eu lieu entre Dev Singh, un touriste indien, et un réceptionniste d'hôtel. Dev appelle la réception pour demander l'heure de fermeture du restaurant. Bonne écoute.
Pukul berapa restoran tutup?
Restoran tutup pukul 9 malam.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Pukul berapa? Pukul berapa? À quelle heure? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Pukul, pukul, heure. Berapa, berapa, à quel? Restaurant, restaurant, restaurant. Tutup, tutup, fermé. Pukul berapa, à quelle heure? Restaurant tutup. Restaurant tutup. Le restaurant est fermé. Chers auditeurs, dans la conversation, vous avez entendu l'expression Pukul berapa restaurant tutup? Pukul berapa restaurant tutup? En français, à quelle heure ferme le restaurant? Dans ce discours, il y a l'expression Pukul berapa? Pukul berapa? À quelle heure? À quelle heure? Pour demander l'heure de fermeture des restaurants. La phrase pukul berapa, à quelle heure est suivie d'une expression pour décrire la condition en question, à savoir restaurant tutup. Restaurant tutup. Le restaurant est fermé. L'expression interrogative pukul berapa, à quelle heure sert à demander l'heure déterminante. Alors que, pour demander l'heure déterminante, on peut utiliser le mot interrogatif kapan. Kapan, quand. Maintenant, écoutons la conversation pour demander l'heure. Dev, selamat pagi. Pukul berapa kamar dibersihkan? Selamat pagi. Pukul berapa kamar dibersihkan? Bonjour. À quelle heure la chambre est-elle nettoyée? Réceptionniste. Selamat pagi. Selamat pagi. Kamar dibersihkan pukul 10. Kamar dibersihkan pukul 10. Bonjour. La chambre nettoyée à 10 heures. Réceptionniste. Kapan Bapak kembali ke India? Kapan Bapak kembali ke India? Quand reviendrez-vous en Inde? Dev. Bulan depan. Bulan depan, le mois prochain. Chers auditeurs, pour exprimer l'heure déterminante, vous pouvez utiliser le mot pukul berapa. Pukul berapa, à quelle heure? Par exemple, saya berenang pukul 2. Saya berenang pukul 2. Je nage à 2 heures. Quant au mot jam, heure, est utilisé pour exprimer la durée du temps. Par exemple, saya berenang selama 2 jam. Saya berenang selama 2 jam. En français, j'ai nagé pendant 2 heures. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Pukul berapa restoran tutup?
Restoran tutup pukul 9 malam.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Smile, sing and touch me so gently. I always hope. Voice of Indonesia.
Friday night, staying up late, laying down side to side. Feels like nothing to be afraid of anything, just enjoy the ride.
C'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bon, écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson intitulée « Ampar Ampar Pisang », chantée par Heni Purwonegoro. Ce jeudi, la chanson « Ampar Ampar Pisang » est l'une des chansons folkloriques célèbres en Indonésie, car cette chanson est enseignée dans les écoles. De plus, la chanson « Ampar Ampar Pisang » est également une chanson d'accompagnement pour les jeux pour les enfants de Banjar. Les paroles de la chanson de Hamidan Ace racontent le processus de fabrication du rimpi à la banane, l'une des spécialités de Banjar. Les paroles mentionnent une étendue de bananes séchées au soleil et entouré de petits insectes attirés par l'arôme des bananes. Bon, chers joyeux, voici Heni Purwonegoro va chanter une chanson de Banjar intitulée « Ampar Ampar Pisang ». Bonne écoute.
Patah kayu bengkok,
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.